Chapitre 12. Il faut, dit-elle, que je vous parle avec une franchise entière, en vous expliquant la vérité, exactement comme si vous m'écoutiez au confessionnal. Car dans les circonstances délicates où nous nous trouvons placés, nous avons tous besoin de vos conseils et de vos lumières. Quand, pour la première fois, je suis venue pour vous entretenir de Denise, je vous ai dit qu'elle était la fille de Monsieur le Marquis de Rudemont, et qu'en cette qualité, elle serait son héritière. Je me suis alors beaucoup trop avancée. « Elle ne sera pas son héritière, » interrompit-il en la regardant. « Elle n'est pas sa fille, » continua Clémence. « Comment Monsieur le Marquis s'est-il laissé persuader qu'il était le père de cet enfant, je n'en sais rien, car je n'ai jamais eu de renseignements précis sur sa liaison avec cette comédienne. » La seule chose certaine, c'est qu'il avait cru qu'elle était sa fille et, dans cette persuasion, il avait été disposé à la donner pour femme à M. Louis Mérot. Sans doute, c'était une enfant naturelle qu'il admettait dans sa famille, mais ce vice de naissance disparaissait pour lui dans cette qualité qu'elle était sa fille. Il ne faut pas être trop choqué de cette faiblesse, ou plutôt de cette vanité paternelle. C'est elle qui a fait faire les mariages des enfants illégitimes de Louis XIV. Mais quand Monsieur le Marquis a eu la preuve qu'il avait été trompé, il a eu cette preuve aussi évidente que possible. Il a su qu'à son lit de mort, la mère de Denise avait écrit à trois personnes pour leur confier sa fille, qui était leur fille à tous les trois. Hélas, cela est-il possible ? Ce tiers de paternité n'a bien entendu pas suffi à Monsieur le Marquis. Par quelles souffrances a-t-il passé, je ne le sais pas, mais je suis certaine qu'elles ont été cruelles, car il aimait vivement cet enfant, et selon moi, c'est alors qu'il a reçu cet ébranlement profond, qui, plus tard, s'est manifesté au dehors par une attaque. Voilà donc comment s'explique cette faiblesse étrange dont on parle. Sans aucun doute, mais ce n'est pas de Monsieur le Marquis qu'il s'agit, c'est de Denise. Ce fut après cette découverte que Monsieur de Rudemont me chargea de vous voir pour vous prier de recevoir sa pupille dans votre couvent de Sainte-Rutilie. Cette révélation l'avait atterré. Mais, avec cet esprit de justice et de générosité qui le caractérise, il ne voulut pas faire payer sa douleur à cet enfant, en réalité innocente de cette infamie. Il s'était attaché à elle et, s'il ne pouvait plus la considérer comme sa fille, il ne pouvait pas davantage la repousser loin de lui comme une étrangère. Cette situation a dû être bien douloureuse. Horrible ! Ce fut alors que M. de Rudemont pensa au couvent de Sainte-Rutilie. Comme moi et comme tous ceux qui avaient vécu avec Denise, il avait été frappé de ses sentiments religieux. Elle était animée d'une piété sincère que l'on pouvait croire et que nous crûmes être le commencement d'une vocation religieuse. Clémence parlait sans quitter le prêtre des yeux et malgré l'impassibilité que celui-ci affectait, elle suivait dans son attitude l'impression produite sur lui par ses paroles. Évidemment, elle le frappait et ce n'était point seulement de l'oreille qu'il les écoutait. Son attention était éveillée et il semblait qu'il cherchât à démêler le vrai du faux dans ce récit. Pour elle, c'était là un grand point d'obtenu. Elle continua. « Il faut que je vous fasse observer que quand M. de Rudemont amena Denise au couvent, elle ne se plaignit pas et ne fit pas la plus légère allusion à son amour. Elle fondit en larmes. » Cela était bien naturel et M. de Rudemont attribua ce désespoir à leur séparation, ce qui, je le crois, était parfaitement juste. Quoi qu'il en soit, il partit avec la conviction que Denise serait religieuse et qu'elle serait heureuse de l'être. Ce fut pour lui une grande consolation car, je le répète, il aimait, il aime beaucoup cette jeune fille. Mais s'il n'a pas connu les véritables sentiments de sa pupille, ce que j'admets, car elle est d'une réserve à ce sujet que personne n'a pu percer, ni la supérieure, ni M. l'abbé Colombe, ni moi-même, il a dû au moins apprendre quels étaient ceux de son jeune cousin. Cette observation, faite d'un ton plein de bonhomie, ne déconcerta pas Clémence. Assurément, dit-elle sans attendre. Peu de temps après son départ, le marquis reçut une lettre de M. Louis Mérot, dans laquelle celui-ci parlait de son amour. grande colère chez M. de Rudemont, car s'il avait trouvé juste que son cousin épousât sa fille, il considérait comme une monstruosité que ce jeune homme pensât à épouser la fille naturelle d'une comédienne, malgré toute la tendresse qu'il pouvait encore ressentir pour elle. Comme le prêtre la regardait avec une attention perçante, elle continua en interrompant pour un moment son récit. Ses sentiments peuvent au premier abord paraître contradictoires, mais pour une personne qui connaît l'orgueil nobiliaire du marquis de Rudemont, il s'explique tout naturellement. Cet orgueil, en effet, ne put pas supporter la pensée que l'héritier futur du titre et de la terre de Rudemont épousa l'enfant d'une comédienne, fille naturelle de quelque misérable. Ce fut dans ce sens que le marquis écrivit à son jeune cousin, et comme celui-ci insistait, il s'ensuivit une sorte de rupture qui, aujourd'hui, s'est trouvée singulièrement aggravée par ce fait que M. Méraud, en apprenant l'arrivée du marquis, a insisté pour obtenir son consentement. M. de Rudemont, je puis le dire entre nous, est exaspéré contre son cousin et il est bien certain que si celui-ci parvenait par un moyen quelconque à épouser Denise, il serait déshérité. Vraiment ? Cela ne fait pas le moindre doute. Il est vrai d'ajouter cependant que M. de Rudemont ne croit pas à ce mariage, convaincu qu'il est que Denise est prête à embrasser la vie religieuse. S'il était venu avant moi, et si vous lui aviez appris, comme vous me l'avez dit, qu'au lieu d'une vocation pour la vie religieuse, vous reconnaissiez en elle une vocation pour le mariage, cela lui eût porté un coup terrible, et dans l'état de faiblesse où il se trouve, je crois même que cela eût pu le tuer. Mais, un jour ou l'autre, il sera frappé par cette révélation. Il suffit pour cela qu'il voie Denise. Aussi faudrait-il qu'il ne la vit pas. Sur ce mot, il s'établit entre eux un long silence. Elle attendait que cette idée eût fait son chemin dans l'esprit du prêtre, et celui-ci, voyant maintenant où elle voulait arriver et par quel détour elle avait passé, était curieux de savoir comment elle allait continuer. « J'entends, dit-elle bientôt en reprenant la parole, qu'il serait bon qu'il ne pût pas la voir pendant quelques jours, car je sais bien que nous ne sommes plus au temps où l'on peut supprimer une jeune fille en la faisant voyager de couvent en couvent. » « Je ne sais si cela a existé jamais, répliqua l'abbé Guillemette d'une voix ferme, mais je sais que cela n'existe plus. » Aussi, ce que je désirerais, ce serait que Denise fût absente de Sainte-Rutilie quand M. de Rudemont s'y présentera, qu'elle eût été envoyée dans le Midi ou au bord de la mer ou à des eaux quelconques pour sa santé. Alors, pendant cette absence plus ou moins longue, j'aurai le temps d'habituer M. le marquis à cette pensée qu'elle ne sera pas religieuse parce qu'elle n'a pas la vocation. Elle n'a pas la vocation. Il n'y a rien à dire là contre et personne ne peut avoir la pensée de violenter sa volonté ou sa foi. De notre côté, on pourrait peut-être, mettant à profit le temps de cette absence, se bien assurer si cette vocation n'existe pas. » Il se fit encore un silence. Si Denise, continua Clémence, était bien convaincue qu'en refusant de rester au couvent, elle prive M. Méraud d'une grande fortune et d'un beau nom, elle serait peut-être touchée. Enfin, mille choses pourraient se passer. Tandis que si M. de Rudemont la voit demain ou après-demain, je suis épouvantée de ce qui peut arriver. D'abord l'émotion violente qui frappera le marquis et, assurément, ébranlera sa santé. Puis, comme conséquence certaine, l'exhérédation de M. Méraud. Vous me disiez tout à l'heure qu'il vous semblait que ce qu'il y avait de mieux, c'était de marier ces jeunes gens. Vous voyez que les choses ne s'arrangent pas dans ce sens. » L'abbé Guillemite resta un moment sans répondre et les secondes parurent longues à Clémence. « Il est certain, dit-il enfin, qu'il ne faudrait rien brusquer dans des conditions aussi délicates. » Aussi, je serai tout disposé à envoyer cette jeune fille faire une saison aux eaux de Bagnoles, où nous avons en ce moment des sœurs dans notre succursale de Saint-Joseph. Elle reviendrait dans quelque temps, et alors, selon ce qui se serait passé d'ici là, son sort se déciderait. » L'entretien se continua encore quelque temps. Puis enfin, il fut arrêté que Denise partirait le lendemain pour Bagnoles en compagnie d'une sœur. Comme Clémence se dirigeait vers la porte, elle s'arrêta tout à coup. « Et cette souscription, dit-elle, j'allais l'oublier. C'est 100 actions, n'est-ce pas? Dans quelques jours, je vous enverrai un chèque sur la banque des frères Monet à Condé. » À ce propos, dit l'abbé Guillemite sans un mot de remerciement, « laissez-moi donc vous demander si vous tenez beaucoup à la maison de banque des frères Monet. » Pendant votre absence, il a couru sur elle des bruits qui doivent être calomnieux, mais enfin qui ont ébranlé son crédit. Pourquoi n'auriez-vous pas vos fonds ici même, chez M. Prêt-Avoine ? Il faut être de son pays.